session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jean-d'Art, le 30 juin 1991.
Dès ce soir, cette session philosophique. On vous a déjà dit, je crois, le contexte dans lequel nous faisons cette session. On l'a fait dans un couvent, un monastère. Alors j'ai dit tout de suite, parce que pour certains, ça fait des confusions. Alors, il est bon de distinguer. Oui, je dirais une prière au début. Les anciens, je parle par exemple quelqu'un comme Plotin, comme Platon, disaient qu'il fallait invoquer les dieux quand c'était particulièrement difficile. Évidemment, je vois moins en Sorbonne aujourd'hui ça. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on dirait? Je me souviens, c'était sitôt après la guerre. Un de mes amis qui revenait de captivité, donc à ce moment-là, il avait tous les droits, était nommé professeur en Sorbonne, et il avait intitulé son cours sur Dieu. Alors ça a fait des réactions. Alors il leur a dit, tout simplement, et que voulez-vous? Je vous défie de comprendre Descartes. Alors Descartes est au programme. Je vous défie de comprendre Kant, et Kant est au programme. Si on ne sait pas quand même un tout petit peu ce que ça veut dire Dieu, dans un certain langage philosophique. Il a fallu qu'ils se défendent, et Spinoza, et Hegel. Et puis, les idéologies athées, ils sont contre Dieu. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que ça veut dire d'être contre un X que vous ignorez. Alors vous comprenez pas ce que ça veut dire. De sorte qu'il avait quand même un cours sur Dieu toute l'année. Alors voilà, c'est le gros problème, vous voyez. Alors je vous dis ça tout de suite. S'il y en a qui ont des difficultés là-dessus, ils me le diront. Parce que c'est déjà arrivé que ça a mis de mauvaise humeur certains. Non, c'est pas de la philosophie. On annonce une session philosophique. Et on fait une prière au début du cours. Alors, je ne vais pas faire la philosophie de la prière. Quoi? Peut-être. Après tout. Pourquoi pas? C'est une activité humaine de prier. Du moins, jusqu'au nouvel ordre. C'est une activité humaine. Il y a des gens très intelligents qui ont prié. Pascal. Aristote. Platon. Plotin. Tous nos ancêtres. Évidemment, on est les petits-fils. Alors on est un petit peu plus avancé. On fait cette session dans un cadre religieux. En distinguant bien que nous faisons de la philosophie. On va bien le préciser. Et pour bien préciser qu'on fait de la philosophie, on va justement comprendre la différence entre la philosophie et la foi, première grande distinction, très nécessaire, surtout ici, surtout au début de la session. Et puis, philosophie et religion. Distinction aussi très nécessaire, mais pas du tout la même. Et je crois que c'est très important, justement, de bien distinguer que c'est pas du tout la même chose. La distinction entre foi et philosophie, religion et philosophie. Et puis de faire comprendre que la philosophie, c'est la recherche de l'homme. C'est ça. Pourquoi faire de la philosophie? Vous savez bien, quand un jeune homme et une jeune fille terminent leurs études, disaient à leurs parents, je veux faire de la philosophie. Mais qu'est-ce que tu penses? Complètement inutile. Presque comme si je vais faire de la danse. Et qu'est-ce que tu penses que ça se ferait pas chez nous? On croit que la philosophie, ça sert à rien. Un peu comme l'art. Non. Ça touche l'homme. Ça touche l'homme. Un véritable art permet à un homme d'être plus homme. Et la philosophie encore bien plus. Beaucoup plus. Parce que si je fais de la philosophie, si nous faisons de la philosophie, et nous allons faire ensemble de la philosophie, c'est ça le propre d'une session philosophique, c'est d'essayer ensemble de faire de la philosophie. C'est-à-dire de pouvoir dire ce qu'on pense. Alors comme on est assez nombreux, vous êtes bien encadrés. Hein. Il y a des sœurs, des frères, et puis ceux qui arrivent de la session. Alors ne craignez pas, vous savez, on vous reçoit avec beaucoup de gentillesse. Là, on ne va pas vous dévorer si vous n'êtes pas d'accord. On vous laisse une liberté totale. Parce que c'est ça le problème de la philosophie, c'est d'avoir cette liberté entière. Alors on vous dira simplement, on vous dira ça demain, il y aura des carrefours. Parce que quand on a écouté une heure et demie, on a envie de parler. Alors on vous dira, dans les carrefours, parlez. Dites ce que vous avez sur l'intelligence et le cœur. Puis on répondra aux questions. Parce que la meilleure façon de faire de la philosophie, c'est un dialogue. Pas uniquement. Il faut un dialogue et puis de temps en temps, réfléchir. Réfléchir toujours un peu ensemble. Mais je dis ça parce que c'est important de comprendre dans quel milieu on fait de la philosophie. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent quand même Saint Jodard. Si vous ne le connaissez pas, vous le connaîtrez. C'est une expérience à faire. On ne sait pas quel est ce saint. Mais le maire de Saint Jodard, qui est toujours le même depuis qu'on est ici, qui n'est pas un pratiquant, non, il n'est pas contre, il n'est pas pour, il est comme beaucoup aujourd'hui. Mais quand il y a eu porte ouverte au début, il a dit simplement, et il y avait quand même des gens de Saint-Jodard, j'ai dit, dites-vous bien que maintenant, à partir que ces gens particuliers viendront, Saint-Jodard sera connu dans le monde entier. Pas encore, hein, pas encore. Il était prophète en disant ça. Saint-Jodard sera connu dans le monde entier. C'est pour montrer qu'il fallait l'accueillir. Et c'est un petit peu vrai. La poste reçoit des lettres. Je crois qu'elle n'en avait pas reçu beaucoup comme ça avant. S'ils étaient collectionneurs, on verrait les timbres qui disparaîtraient. Mais c'est vrai que on voit que ça vient un petit peu de tous les azimuts. Ici, c'est l'école Saint-Jean. Et on fait de la philosophie, habituellement. Ceux qui font de la philosophie sont en premier lieu des novices. Des jeunes qui veulent entrer dans la communauté Saint-Jean en vue d'être moines. Pas bouddhistes, moines chrétiens. Si j'étais bouddhiste, ça ferait une curiosité. Hein. Tout le monde viendrait voir ses têtes rasées avec des pointes de feu. Si on ne met pas de pointes de feu, parce que la tête rasée, plus ou moins rasée, ça dépend si la coupe est fraîche ou pas fraîche, mais ça n'a pas d'importance. C'est quand même ceux qui veulent se consacrer totalement à Dieu. Puis il y a des sœurs. Alors, elles ne sont pas comme des sœurs bouddhistes qui aussi sont rasées. À Taïwan, j'en ai vu comme ça, avec les pointes de feu. Et c'est aussi partie des grandes écoles de où on apprend à réfléchir et à prier. Alors ici, c'est en même temps l'école Saint-Jean qui est une école de philosophie. Donc on est habitué à réfléchir, du moins à essayer de réfléchir, à apprendre à réfléchir, puisque c'est ça la philosophie, c'est apprendre à réfléchir, à creuser, à aller plus loin possible, à comprendre ce que les autres ont dit sur ce sujet, en respectant les opinions diverses. Le philosophe ne doit avoir aucun a priori, même politique, ce qui est très difficile. Très difficile. Aujourd'hui. Mais je crois que le propre de la philosophie, c'est de supprimer tous les a priori. Si on cherche la vérité. Alors, si on cherche la vérité, c'est vrai. Et on désire la trouver. Et on espère la trouver. Mais tous ceux qui cherchent la vérité sont des amis. Si vous cherchez la vérité, vous êtes honnête. Vous êtes des amis. Vous vous trouvez chez vous ici. Même si vous avez des pensées très différentes, vous cherchez la vérité. C'est ça l'essentiel. C'est d'avoir cette bonne volonté de chercher la vérité. Pendant ces 5 jours, on cherchera la vérité. Sur un sujet particulier, les liens qui peuvent exister entre religion et philosophie. Religion et éthique. C'est un problème très, très actuel. On vit en Europe, en France, à Saint-Jodard. C'est un microclimat, n'est-ce pas, européen. On vit une laïcité. C'est un lieu commun, du reste, aujourd'hui. Alors, il y a différentes sortes, il y a différents sens de la laïcité. Il y a une laïcité qui veut être une neutralité. Alors, il y a des domaines sur lesquels on n'entre pas. C'est trop personnel. Alors, on se posera la question, est-ce qu'une philosophie peut accepter un point de vue qui, politiquement, est constamment accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant, du reste, comme problème. Est-ce que l'homme peut mettre une zone neutre en disant, la religion, c'est neutre? Est-ce que ça intéresse l'homme? Est-ce que c'est essentiel à l'homme? Ou est-ce que... Non. Il y en a qui font de la musique. Il y en a qui font de la danse. Il y en a qui cultivent leur petit jardin. Ben, c'est la même chose, hein, pour la religion. C'est un problème important. La laïcité dans la neutralité. Est-ce légitime? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette attitude-là? Il y a une laïcité, alors, qui est agressive, qui ne veut pas autre chose qu'un homme laïque. Et donc, porter un avis religieux, ça ne se fait plus à la fin du XXe siècle. C'est agressif. Vous ne voyez pas comme c'est agressif en portant l'avis religieux? Agressif. Parce que pour certains, la laïcité s'oppose à tout aspect religieux. C'est un autre aspect, vous voyez? C'est pour ça que je dis que ça prend des significations très différentes, la laïcité. Et ceci, c'est de fait en fonction de qu'est-ce que c'est que la religion. Si on ne parlait pas de religion, est-ce qu'on parlerait de laïcité? Je ne sais pas. On a parlé de religion avant de parler de laïcité. C'est curieux. Historiquement. À quel moment la laïcité est-elle parue? Ça, je laisse ça aux historiens. Si parmi vous, il y a des historiens très calés là-dessus, vous me le direz. Dites-moi, c'est intéressant de voir ça. Chercher un vieux dictionnaire. Hein. Laïcité. Religion, on en parle depuis très très longtemps. Ah oui, ça c'est très vieux. Ça, au point de vue philosophique, c'est très vieux. Je crois qu'on a parlé avant de la religion. L'homme est-il un animal religieux? Qu'est-ce que c'est que la religion? Qu'est-ce que c'est que une activité religieuse? Une activité sacrée? Y a-t-il une différence entre le sacré et le religieux? Y a-t-il une différence entre l'attitude de foi et l'attitude religieuse? Vous voyez, toutes ces distinctions qui sont intéressantes parce qu'on parle de ça couramment sans se demander exactement ce que ça veut dire. Toutes les quantités de querelles. Alors que si on avait un tout petit peu de plus de précision, il y en aurait moins. Et nous recherchons ça dans une perspective philosophique. Alors évidemment, là aussi, hein, tous les sens de la philosophie. Je crois qu'on pourrait faire toute une session sur les différents sens de la philosophie, uniquement en Grèce. Après, en Europe, la Grèce étant inclue dans l'Europe, mais la Grèce a été source de culture pour l'Europe. C'est notre source de culture, la Grèce. L'Égypte, la Grèce, Rome. Je crois, on n'a pas une culture gauloise. Premièrement, les Gaulois étaient un petit peu affinés. La philosophie a des sens multiples. Alors, tout de suite, on va préciser ce que nous entendons par philosophie. Je crois que c'est mieux. Vous pourrez très bien ne pas être d'accord. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettrez vos objections. Je crois que c'est loyal. Nous cherchons la vérité. Bon, si nous cherchons la vérité, tous, je crois que tout philosophe doit rechercher la vérité. Parce que le terme philosophe, j'en peux rien, mais c'est l'ami de la sagesse. Le vieux terme, l'expression, l'ami de la sagesse. Or, la sagesse, c'est celui qui cherche la vérité et qui pense l'acquérir. La sagesse, c'est ce qui permet à l'homme de voir ce pourquoi il est fait. Le sage, celui qui a un but dans sa vie. Et s'il a un but dans sa vie, il a au moins un certain sens d'une vérité pratique. La vérité, c'est ça. Et c'est ça qui me conduit au bonheur. Vous voyez ? Donc la philosophie est reliée à l'homme comme la sagesse. Et la recherche de la vérité, ne cherchez pas, est liée à l'homme. Alors évidemment, je peux prendre une attitude sceptique. Impossible pour l'homme d'atteindre la vérité. Alors, ce n'est pas la peine de suivre une session. Venez, j'aurais indiqué réunion des sceptiques pendant 5 jours. Je crois que c'est sceptique. Chacun aurait été sceptique sur un domaine et aurait fait ce domaine un tout. On est sceptique en politique. A-t-il une vérité en politique? Pas si commode que ça. Hein. Je lisais l'autre jour un article, vous l'avez peut-être lu, je ne sais plus dans quel journal, c'était amusant. Amusant, non, c'est pas très amusant. Quelqu'un interrogé, je retrouverai facilement la référence, parce qu'elle était encore là-bas. Je l'ai eu d'abord à mon bureau et puis je vous l'ai envoyé. Je demande le droit à la subjectivité. C'est amusant, hein, demander le droit à la subjectivité. Moi, j'avais jamais pensé de demander un droit à la subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire le droit à la subjectivité? Je crois que c'est le droit. droit qu'on a de parler, quoi. D'avoir des opinions propres. C'est évident, j'ai le droit d'avoir des opinions propres. J'ai pas besoin de demander un droit. Je crois, du moins. On n'a jamais mis en prison quelqu'un qui parlait, qui avait des opinions. Évidemment, si son opinion, c'est de tuer quelqu'un, ça, c'est autre chose, hein. La subjectivité a des limites, hein. Vous savez bien, quand même, les philosophes les plus tolérants ont toujours dit quand même, n'attaquez pas l'autre. N'attaquez pas l'autre, parce que si vous attaquez l'autre, l'autre prendra un droit de réponse. Alors le droit à la subjectivité, si c'est le droit de tout dire, attention, vous vivez dans une communauté. Ben, si vous vivez dans une communauté, quand même on peut dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Je crois. On va tout dire, de tout penser, à partir de tout dire, de tout faire. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. Ça va arriver, ça. Droit à la subjectivité. C'est-à-dire, halte là. Arrêtez. Votre subjectivité s'arrête là. C'était un médecin psychanalyste qui m'a dit ça. C'était en 68. Il était mis sur les portes de la Sorbonne. La liberté pour tout le monde, on a le droit de tout faire, puis tout ça. Alors lui, en bon freudien, il vient avec son appareil de photographie pour prendre ça, document. Là-dessus, un étudiant qui était à la porte se précipite. Ah, on n'a pas le droit de photographier, mais on a le droit de tout faire. C'est authentique. C'est très curieux. On a une subjectivité totale pour soi, mais pas pour l'autre. C'est curieux, ça. Je prends ça un exemple, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant d'entendre ces choses-là. Donc, la philosophie que nous prenons, c'est une philosophie qui cherche la vérité. À partir de l'expérience humaine. À partir de l'expérience humaine. Toute expérience humaine, digne de ce nom, est respectable. Parce qu'elle est liée à un sujet, à une personne. Il faut bien voir le commencement d'une philosophie. Je ne pars pas d'un a priori. Je pars de mes expériences. Je me souviens, un exemple que je cite souvent, parce que ça fait comprendre quelque chose. C'est déjà assez ancien, c'était en 50. C'est déjà vieux. Des amis communs avec des psychanalystes freudien de Paris m'avait demandé si j'acceptais un dialogue avec eux parce qu'ils disaient nous partons nous aussi de l'expérience et si Père Philippe part de l'expérience on doit pouvoir s'entendre, on ne le reçoit pas en tant que religieux, en tant que dominicain, mais on le reçoit en tant que philosophe cherchant la vérité à partir de l'expérience. Alors j'avais répondu oui, je ne demande pas mieux. Tout homme qui recherche la vérité est un ami. Et il doit être un ami s'il recherche la vérité et qu'il accepte loyalement le dialogue. Alors, on s'était dit, quelques psychanalystes freudiens, deux philosophes, de fait on était deux, c'est pas très drôle. Invitons des amis. C'est plus drôle. Il faut quand même un petit peu c'est un spectacle. C'est beau de voir des psychanalystes freudiens et des philosophes qui se disent la vérité ouvertement. Ça peut intéresser un certain public amical. Cherchez vos amis, je cherche les miens. Soit pas très nombreux, mais qu'on soit quand même une quinzaine. Qu'il y ait quelques amis, puis les autres. La règle du jeu. Après avoir parlé une heure et demie, alternement pour dire, on cherchera la vérité, on ira jusqu'au bout, chacun, sans cesse, sans faire des formules de politesse. On cherchera ce qui nous semble être la vérité, loyalement. Même si, quelquefois, on se dit, on ne pourra plus entendre. Et on reviendra quand même, puisqu'on cherche la vérité. Sur le moment même, ce sera peut-être dur. C'est vrai, il y avait des fois où c'était très dur. Parce que, quand on cherche la vérité, on est quand même un peu passionné. Et la passion d'un intellectuel qui cherche la vérité, ça va loin. Alors, après ça, les amis s'en vont, je reste avec mes 4 psychanalystes, et je reste seul avec eux. Alors, on se dit, ça va ? Mon ami était parti. Oui, ça va bien, mais parmi vos amis, au bout de quelques minutes, parmi vos amis, oh, il y en a un ou deux, oh, ça leur ferait du bien, petite analyse. Alors, je dis, mais quoi ? On a dit que on amenait des amis. Je ne vous ai pas amené des clients. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre une expérience amicale et l'expérience clinique ? Ah ! C'est intéressant, on parle de l'expérience. L'expérience humaine, simple, je vais acheter des carottes au marché. Évidemment, le philosophe qui va acheter des carottes au marché, il ne va pas se mettre à faire de la philosophie devant la personne qui va vendre des carottes. Est-ce que vos carottes existent ? Vous voyez ça, le dialogue ? Elles sont bonnes, on peut le dire. Est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'elles existent ? Qu'est-ce que vous faites ? Non, elles sont là pour être vendues. C'est vrai, elles sont là pour être vendues. L'expérience, elle a des modalités différentes d'expérience. L'expérience économique, l'expérience clinique du psychanalyste, qui est tellement habitué de regarder l'homme qu'il voit tout de suite. Ah, petite analyse, ça lui fera du bien. J'avais envie de lui dire, je n'ai pas dit, parce que... Mais peut-être que disent, oh, ce médecin psychanalyste, oh, il nous regarde drôlement. Comme si on était un client. Alors, je pars de l'expérience humaine, simple, la plus simple possible, la plus quotidienne, pour essayer de réfléchir. Je me souviens, là encore je donne un autre exemple pour que vous compreniez mieux ce que c'est que, on verra ce que c'est que l'expérience, parce que c'est pas commode. Vous voyez, l'expérimentation et l'expérience, l'intuition et l'expérience. Un artiste qui a des idées et qui voit tout sous un point de vue particulier, son inspiration. On en a tous un tout petit peu. On arrive tous ici avec des a priori, forcément. Il faut les mettre à côté. Puis on fait une expérience. Vous m'écoutez, je vous parle. Je trouve que c'est une expérience humaine, moi, ça. C'est pas une expérience clinique. Je ne vais pas regarder, tiens, là, oh là. Non, pas du tout. On se regarde pour chercher ensemble la vérité. Vous voyez ? Il y a une intention commune. On cherche la vérité ensemble. Et on veut se faire confiance, écouter, et chercher la vérité ensemble. C'est beaucoup, ça. Et alors, on a une expérience commune, une expérience qui fait que on veut aller jusqu'au bout de cette recherche de la vérité. Et quand on sera un peu fatigué, on arrêtera. J'étais dans un Carmel. Je ne dis pas lequel, c'est pas la peine. Et la mère prieure me dit, est-ce qu'à midi, ça ne vous dérange pas de prendre votre repas avec des prêtres ouvriers? C'était au moment où les prêtres ouvriers étaient assez nombreux. Je ne dis pas du tout, ma mère, au contraire. À l'occasion de leur parler. Alors évidemment, j'étais en dominicain. Eux étaient en tenue. Leur tenue à eux. Ils se présentent au début du repas. Et puis, évidemment, la question arrive tout de suite. J'en étais sûr. Alors, tiens, où est-ce que vous êtes? Je dis, à Fribourg, en Suisse, à l'université. J'enseigne la philo. Alors tout de suite, quelle philosophie? Je dis, tiens, posez la question, quelle philosophie? Dites-moi un tout petit peu, vous, quelles sont les philosophies que vous pensez exister? Vous voyez, j'avais renversé la vapeur, ils m'interrogeaient, je les interrogeais. J'aimais mieux ça. Alors évidemment, ils me disent, je sais pas, quoi, c'est de la philosophie. Je dis, qu'est-ce que c'est que la philosophie pour vous? Oh, la philosophie, ce sont des idées. Mais non, c'est pas ça la philosophie. Sur l'homme, vous êtes un mauvais ouvrier. Vous n'avez jamais réfléchi là-dessus? Ah non, non. Ben, ça prouve que ça ne va pas très loin. Et vous restez sur un domaine tout à fait pratique, alors vous devez réfléchir sur ce que c'est que l'ouvrier, sur ce que c'est que l'homme. Et toute ma philosophie, c'est de chercher ce que c'est que l'homme. Puis là, je leur ai développé à partir de là. À partir de là, je leur faisais un cours de philosophie. Ils écoutaient. Puis au bout d'un certain temps, ils disaient, ben, ça doit être bien intéressant une philosophie comme ça. Je dis, mais c'est évident, et c'est pour ça que je l'ai fait. Autrement, je la ferais pas, vous comprenez. C'était pas intéressant. Et alors, à ce moment-là, je leur dis, hein, vous attendiez que je dise que j'enseigne le thomisme, hein? Oui, c'est ce qu'on attendait. Bien, c'est ça, le thomisme. Alors là, ils n'en revenaient pas. Mais c'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné, parce qu'on vous a pas enseigné le thomisme. On vous a enseigné des idéologies. Des idées. On ne vous a pas du tout enseigné ce que saint Thomas dit, et là je pouvais citer saint Thomas, que c'est l'expérience qui joue en philosophie, et l'autorité est la dernière des raisons. C'est quand je ne comprends plus rien, je dis saint Thomas l'a dit, Hegel l'a dit, Aristote l'a dit. Alors je m'appuie de toutes mes forces sur l'autorité, parce que je ne sais plus. Ça peut arriver. Parce qu'on n'a pas creusé tous les domaines. Alors on s'est arrêté à des autorités. On a tous des autorités au plan philosophique. Le tout, c'est d'avoir de bonnes autorités. Des autorités qui tiennent la route. Sur lesquelles on peut s'appuyer. Même quand on est très fatigué, on s'appuie. Puis petit à petit, les autorités nous conduisent vers la vérité. Alors, chercher la vérité à partir d'expérience, en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme. C'est ça, la philosophie pour moi. L'homme dans toutes ses différentes dimensions. Parce que l'homme a diverses dimensions, il n'a pas qu'une. Il y a diverses dimensions, l'homme. Des dimensions multiples, diverses. Et il faut essayer de découvrir ces dimensions multiples et diverses de l'homme. Puis les ordonner, les comprendre. Parce que, évidemment, il y a l'homme français, il y a l'homme de la fin du XXe siècle, il y a l'homme qui a 20 ans, il y a un homme qui a 70 ans. Est-ce que c'est le même ? Ces expériences sont différentes. Il y a l'homme africain, il ne faut pas l'oublier, c'est évident, l'homme qui est né en Afrique, qui a une culture africaine. Il y a l'homme qui est né en Asie, en Chine, et il a sa culture. Est-ce que c'est toujours un homme ? Ou est-ce que c'est plus un homme ? Est-ce qu'un Asiatique n'est plus un homme ? Ou est-ce qu'il est encore un homme ? Vous voyez ? Ce qui m'intéressait à Fribourg, c'est que j'ai eu des étudiants de 40 nationalités. Alors, ça m'a obligé de dépasser un peu la politique française. De découvrir l'homme au-delà de la politique française, ce qui n'est pas toujours commode, hein, voyez. Le soir des élections, c'est difficile de découvrir l'homme au-delà de la politique française. Très difficile. On a beaucoup de peine, parce qu'on a l'impression qu'ils sont totalement engagés. Et que l'autre a dit des bêtises, parce qu'il n'a pas dit la même chose que vous. Donc nécessairement, il a dit des bêtises. Découvrir l'homme. Voyez, c'est un gros problème, ça. Et je crois que c'est le grand problème philosophique aujourd'hui. Sauver l'homme. On vit aujourd'hui un péril, faut pas dire le contraire. Parce que, de fait, on est lancé à une telle vitesse du progrès scientifique, du progrès technique, qu'on a l'impression que l'homme n'arrive plus à assimiler. C'est un scientifique qui m'a dit ça, un professeur de biologie de Paris. Il m'a dit ça. Il m'a dit, on arrive à une situation limite. On verra ce que c'est que la situation limite. Elle est intéressante. C'est un des aspects modernes que le philosophe doit être attentif à ça, puisque ça parle de l'homme. Jaspers qui a découvert la situation limite, parce qu'il était médecin, et de médecin est devenu philosophe. Alors, situation limitée. Maintenant, c'est un terme classique, très intéressant. Être en situation limite. C'est quand tout va tellement vite qu'on ne peut plus l'assimiler. Alors, il y a un phénomène de rejet. Il y a un phénomène de rejet, ce qu'on rejette. On ne l'a pas assimilé. Alors, c'est intéressant de voir. L'homme peut-il être en situation limite ? Quand est-il en situation limite ? Ça dépendra de la conception de l'homme que vous avez. Mais attention, quand je dis ça dépend de la conception de l'homme que j'ai, de l'homme réel, pas de l'homme que j'ai conçu, pas de l'idée que j'ai de l'homme, l'homme tel que je l'expérimente, tel que j'interroge, tel que je peux avoir l'expérience avec lui et mon expérience. Je n'évacue pas mon expérience, mais je sais que c'est la mienne. Mon expérience m'intéresse. Je ne veux pas dire à quelqu'un qui va faire de la philosophie, mettez toute votre expérience en dehors. Alors quoi ? On ne va plus penser. On ne va plus avoir de cœur. On ne va plus aimer. L'affectivité fait partie de ma philosophie. C'est sûr. La subjectivité fait partie de ma philosophie. Et je ne dis pas que j'ai un droit à la subjectivité. Je dis que ma subjectivité, c'est ma vie, tout simplement. C'est que j'essaie de vivre. Et que par le fait même, j'aurai certaines opinions qui sont propres. Essayez de comprendre que la recherche de l'homme dans le monde d'aujourd'hui, je crois que c'est le rôle propre du philosophe. Sauver l'homme du péril dans lequel il est. Parce qu'il risque d'être dans une situation limite telle peut plus être homme. C'est un article d'un philosophe de Rome, de l'université de Rome, a écrit il y a quelques années. L'homme n'entre-t-il pas dans une situation limite? J'ai trouvé cet article très intéressant. Et vrai. Est-ce que l'homme n'entre-t-il pas dans une situation limite? Avait-il assumé la rapidité du progrès? Ou est-ce qu'au fond, il est obligé de s'arrêter et dire non, moi je ne peux plus? Alors voyez, on va entrer dans cette perspective, on continuera demain. Je ne veux pas vous retarder trop ce soir, parce qu'il ne faut pas. Il faut que vous réussissiez votre fin. Alors le soir, si vous voulez bien, bien qu'on fasse de la philosophie, on chantera le Salve Regina ensemble. Ceux qui n'ont pas la foi resteront 3 minutes en silence pendant que les autres prient. Et ceux qui ont la foi prieront. Ils invoqueront la Sainte Vierge pour lui demander de nous aider à chercher la